Voix nue. Ce soir encore, Jean-Michel Dian rencontre Franz-Olivier Gisbert. Tout de suite, le philosophe.
Alors derrière l'écrivain, le journaliste, il y a chez Franz-Olivier Gisbert un autre personnage peut-être plus éternel, plus temporel, plus peu importe. C'est un philosophe qui s'intéresse beaucoup à la nature, précisément, qui est très en phase avec ses oliviers, avec ses rosiers, avec ses escargots.
Citronniers aussi.
Ses citronniers. Dire. C'est quelqu'un qui... qui consacre beaucoup de temps à lire, comme sa mère, de la philosophie. Je parle de Nietzsche, de Pascal en particulier, ou bien d'autres, mais peu importe. Il y a l'idée, chez vous, d'un personnage qui vient se raccrocher à quelques branches philosophiques, ne serait-ce que pour expliquer sa propre existence, et qui va puiser chez saint Augustin une bonne raison d'avoir la foi, qui va partout chercher quelque chose qui ressemble à de la pensée. Et cette manière de vivre, est-ce que, au fond, maintenant, dans cette partie de la vie où vous prenez plus de distance avec le réel, vous avez envie de cultiver ces territoires-là? Je parle de la nature, je parle de la foi. On a très peu parlé de la religion, mais c'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Parlez-nous de ces moments-là, de ce temps-là, de ce qui, pour vous, vous enrichit profondément et qui ne se voit pas.
Alors, c'est vrai que là, il faut retourner à l'enfance, il faut retourner aux sources. Hein. Ma mère, c'était la philo. Mon père, c'était la littérature. Mon père lisait que de la littérature, et puis aussi l'histoire, l'histoire des civilisations. Ma mère, c'était philo, philo, et hélas, surtout Descartes, d'ailleurs. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai aujourd'hui à votre disposition un texte, enfin, je crois que c'est un projet de livre, un livre autour de Descartes. C'était sa passion, Descartes.
Mais bon. Vous détestez Descartes?
Absolument, oui. Donc, j'adorais ma mère, mais on avait toujours un problème autour de Descartes. Pourquoi? Parce que Descartes, c'est comment dire... une espèce de vision tellement rétrograde de l'homme que je ne peux pas l'approuver et que franchement d'ailleurs elle me révolte. Parce que c'est quoi Descartes? Oui. Voilà, le Dieu a créé la terre pour l'homme. Hein, il a créé les éléments, il a créé le ciel, la mer, il a créé les animaux, il a créé tout pour l'homme. Qui en fait après ce qu'il veut. Moi, c'est quelque chose qui est absolument contraire à mon état d'esprit. Et c'est vrai que je me suis jamais senti cartésien. Alors qu'en fait, c'est vrai, je suis attiré par Épicure, par exemple. Épicure, c'est un personnage tellement extraordinaire. Quand on le voit, là, on l'imagine en train de souffrir mille morts avec sa maladie de la pierre et qui vous dit, c'est tellement beau, la mouche qui vole avec la Méditerranée derrière, enfin, en arrière-plan. Voilà, c'est ça, mais j'adore. Quant à Nietzsche, aussi, qui vous chante l'élan vital, passionné par la vie, et lui qui souffre de la syphilis avec un herpès géant, il a un herpès génital géant en plus. Enfin, c'est incroyable. Et donc, oui, je vais spontanément vers la philosophie. Et c'est vrai, je vais toujours plutôt vers des textes qui m'élèvent, qui, comment dire, chantent la joie. Ouais. Même si, c'est vrai, certains d'entre eux, par exemple, comme Spinoza, mais il y a une logique chez Spinoza. Moi, je me sens très spinoziste. En même temps, bon, je vais pas dire, lisez Spinoza, parce que c'est vrai que c'est une lecture qui est un petit peu rébarbative, disons, alors que Nietzsche est un écrivain, quoi, avec le sens de la formule, une drôlerie, on se marre tout le temps. Bon, Spinoza, c'est un peu différent, mais c'est vrai que je me sens complètement à l'aise dans le monde de Spinoza, c'est-à-dire l'idée que Dieu, c'est la nature, hein. C'est ça l'idée. Deus res natura, c'est ça. Tout est résumé en quelques phrases. Tout est résumé en une phrase. C'est extraordinaire.
La foi, vous l'avez depuis la tendre enfance. Vous allez à la messe, je ne sais pas si vous avez été enfant de cœur.
Non, j'étais enfant de cœur. Je suis croyant. J'étais déjà croyant dans le ventre de ma mère. Ma mère était catholique, fervente, catholique de gauche, hein, c'est catholique militante rocardienne, patronne des rocardiens, je crois de Seine-Maritime, enfin, vous voyez, elle était très, mais catholique de gauche. Et je suis le produit d'une catholique, alors que mon père était athée militant, violent, comme toujours chez lui, tout l'été, Et spontanément, j'étais évidemment, comme pour tout, du côté de ma mère. Et c'est vrai que peu à peu, j'ai déçu ma mère. J'ai raconté ça dans un livre, Dieu, ma mère et moi. Parce que j'ai déçu, parce que j'ai commencé à ajouter... Au départ, j'étais posé pas trop de problèmes, mais quand même, je trouvais le catéchisme... C'est bizarre, quand même, ces trucs, tout le raconté, la vie éternelle, voilà.
Vous j'ai fait ma
communion.
Pas, en fait.
Ouais, j'ai fait ma communion, mais quand même, non... L'Eucharistie, c'est pas mon truc, s'il te plaît, maman. Non, faut vraiment bouffer le truc, le corps du Christ. Non, ça, je sens pas. Bon, enfin, voilà, j'étais quand même déjà un petit peu, vous voyez, protestant. D'ailleurs, quand on se parlait entre Julien Grille et moi, c'était vraiment la conversation du catholique devenu protestant, et lui, c'était le protestant devenu catholique. Et j'ai rajouté des tas de choses à mon christianisme. Alors, il y a eu la rencontre avec Bouddha, évidemment. C'est très important. J'ai rencontré Bouddha, non pas en Birmanie ou en Inde, où j'ai été souvent, j'ai rencontré aux États-Unis parce que parmi mes pères, comme ça, je cherchais les grands écrivains qui m'ont beaucoup marqué, et qu'on cite jamais parce qu'on les considère comme secondaires. Il y a Jean Giono, d'abord, pour moi, c'est énorme. Hein, ça, c'est... Puis ça, c'est ma philosophie. Je me sens complètement... C'est comme un double qui me parlerait. Il faut tout lire. Il faut lire Colline, il faut lire Un roi sans divertissement, il faut lire... Enfin, c'est un splendide écrivain, jamais cité, bien entendu. On ne sait plus pourquoi on l'oublie. Enfin, on l'oublie pas en Provence, parce que bon, bref. Et puis Jack Kerouac. Mmh. Et Jack Kerouac, quand j'étais tout jeune, j'ai fait un peu une partie de son chemin, là, vous savez, aux États-Unis. Et c'était un bouddhiste, enfin catholique et bouddhiste. Alors j'ai commencé à mettre du bouddhisme. Après, évidemment, j'ai découvert le taoïsme, j'ai découvert l'hindouisme, puis j'ai mélangé tout ça avec. Bon, puis du Luther aussi. Je parlais du protestantisme, j'ai une passion pour l'écriture de Luther, évidemment. Il n'écrit que des cochonneries, des saloperies sur les juifs, ça c'est affreux, on oublie. Enfin, c'était l'époque, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Enfin, c'est pas brillant, mais en même temps, il y a un style, il y a un talent, il y a une verve que j'adore. Bon, bref, je suis croyant, mais en même temps, comme je dis toujours, moi je crois à un Dieu, donc je suis un croyant monothéiste. Et je me sens, c'est vrai, à l'aise dans les églises. Enfin, je pourrais aller dans les synagogues et les mosquées, mais je me sens à l'aise dans les églises parce que j'aime bien les églises, j'aime bien la figure de Jésus, voilà. Mais je suis pas, voyez, c'est vrai que quand je vois, la rigidité du catholicisme, moi ça me correspond pas du tout, quoi. C'est clair. Alors je suis à l'aise dans les églises. Mais c'est parce que je me suis fait mon petit christianisme à moi. C'est un peu, disons, le rapport direct avec Dieu, et qui n'a pas de barbe, qui est pas dans un ciel assis sur un fauteuil en train de décider ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Ça, c'est. Je pense qu'on va sortir de ça un jour, j'espère, parce que
au fond,
chacun doit faire sa petite religion. Ouais. Ils aiment pas ça toujours, hein, les catholiques. Moi, j'ai beaucoup d'amis catholiques qui me traitent, c'est une insulte pour eux, de syncrétiste. Mais c'est vrai que moi, je fonctionne comme ça.
Au fond, ce qui vous plaît, Franz-Olivier Gisbert, c'est pas la religion, c'est la spiritualité.
Vous avez tout compris, Jean-Michel Jean, évidemment. C'est le mysticisme, ça je me sens très près, même si, par exemple, je n'adhère pas avec Simone Veil, l'espèce de christianisme doloriste de Simone Veil. C'est merveilleux, je regarde ça comme quelque chose d'extérieur.
C'est magnifique, l'enracinement, c'est très beau.
Et la grâce, l'enracinement. L'enracinement, tout ça sont c'est des magnifique. Livres absolument magnifiques qu'il faut avoir lus dans une vie. Moi, j'adhère pas, c'est pas mon christianisme à moi. Mais par exemple, j'aime quand elle dit « Je suis arrivé au christianisme par la Grèce, par les philosophies asiatiques, etc. » Mais c'est tellement vrai. Bon, moi, j'en suis sorti peut-être par tout ça aussi, avant d'y revenir aussi, parce que tout ça devient un joyeux mélange. Mais ce qui est important, c'est le mysticisme, c'est-à-dire, effectivement, attendez, Jean de la Croix, c'est tellement puissant par rapport aux exégètes, les trucs compliqués qui sont... Thérèse d'Avila, même Thérèse de Lisieux, il y a des choses qu'elle voit qui sont très belles. Donc, oui, bien entendu, c'est ça qui... Et puis, la vérité aussi, c'est que moi, j'aime bien les religions quand elles sont faibles. Et le christianisme, comme il est devenu faible aujourd'hui, c'est vrai, est beaucoup plus supportable que, à mon avis, au XVIe, au XVe siècle. On l'aurait pas aimé du tout. D'ailleurs, j'aurais été brûlé depuis longtemps sur un bûcher comme Giordano Bruno. Comme Giordano Bruno, parce que je suis pas du tout dans les clous. C'est clair.
Au fond, si vous n'aviez pas été un indécrottable hédoniste ou épicurien, vous auriez été peut-être un mystique.
Mais tout ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est D'abord l'amour de la vie, l'amour de ce qu'on nous a donné. Je pense que le mysticisme, c'est pas forcément le rejet de la vie, le rejet du corps. Je pense qu'on peut aussi être mystique et aimer la vie. Regardez d'ailleurs Bouddha, qui est quand même aussi un grand mystique. Vous avez vu comment il est dessiné, comment il est peint, représenté partout en Inde, etc. C'est une espèce de gros bonhomme qui arrête pas de rigoler. Ça, je pense que c'est pas contradictoire du tout. Et moi, c'est vrai que je fais pas partie, disons, de la branche doloriste des croyants. Même si je les respecte énormément et je les admire. Maître Eckhart, c'est merveilleux. Puis en plus, il dit des choses tellement vraies aussi. Hein. C'est en renonçant à tout qu'on finit par tout posséder. Mais bien sûr, c'est aussi une vérité. Mais ma façon de croire, disons, ma foi, elle n'est pas dans la souffrance. Et j'essaye d'aller, je crois, à quelque chose d'autre, à un autre monde. Je pense, vous voyez, quand les gens vous disent « Mais moi, je suis athée, je crois en rien », je pense que c'est impossible. Je leur dis toujours « Mais t'as vraiment regardé un ciel étoilé la nuit ? T'as regardé un enfant pendant longtemps ? Je sais pas, moi, je peux pas ne pas croire en quelque chose quand je vois la vie, mais quand je vois aussi la nature. Une rivière, enfin, j'ai ce petit côté, j'aime bien la contemplation, et quand je contemple, je m'envole très vite. Vous voyez, donc il n'y a pas de contradiction entre le mysticisme et la vie.
Vous êtes un amoureux fou de la nature, Franz-Olivier Gisbert, mais en même temps, vous n'avez jamais déclaré votre écologisme.
Oui, mais ça aussi, moi je suis, j'étais patron de journaux pendant longtemps, quand même 30 ans, j'étais vraiment le patron. C'est difficile d'engager les journaux dans les combats personnels. Par exemple, le combat sur les animaux, je ne me suis lancé qu'une fois ma retraite prise, c'est-à-dire en 2014, je suis parti, j'ai quitté le journal. Immédiatement, j'ai commencé à écrire un livre sur les animaux, sur l'animal est une personne. Et puis, il y avait aussi un manifeste pour les animaux.
Vous ne vous autorisiez pas d'écrire sur les animaux tant que vous étiez patron de presse?
Oui, parce que je trouvais que c'était un combat personnel et je ne vais pas mélanger. Je pouvais écrire des romans, je pouvais écrire des livres politiques, mais ça, c'est quelque chose de sociétal qui est profond. Tous les gens au journal étaient au courant, bien entendu, depuis longtemps de ma passion pour cette cause, bien sûr. Mais je voulais pas prendre le journal en otage, d'autant qu'il y a toujours des viandards, beaucoup de carnivores dans les journaux, et que, bah oui, parce qu'il y en a dans toutes les couches de la société, et que souvent mon type de discours pouvait leur paraître agressif. Donc je le tenais, mais je ne l'écrivais pas. C'est vrai que ça, par exemple, c'est vrai que la cause animale, mais tout ça avec le reste. C'est la suite. Vous savez, il y a une logique dans tout ça. Hein. C'est comment on se voit dans l'univers, comment on se voit sur cette terre. Oui, il y a une continuité, si vous voulez, entre, par exemple, le combat pour la cause animale et puis la conception que l'on peut avoir du monde. Et moi, c'est vrai que j'ai celle plutôt du grand chef Sioux Sitting Bull, hein, qui est un personnage incroyable, qui a dit un certain nombre de phrases. Vous les retenez, mais c'est beau, c'est incroyable. Et ça, par exemple, cette phrase, c'est ce n'est pas la terre qui est faite pour l'homme. C'est l'homme qui est fait pour la terre. Je pense que c'est vraiment une phrase qui devrait mettre sur tous les frontons d'école, parce que ça nous remet à notre place. Je pense que l'homme, il faut aussi qu'il se remette à sa place, hein. Surtout aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de découvrir en astrophysique, avec les exoplanètes qui arrivent de partout. On ne sait pas, est-ce que c'est habité, est-ce que c'est pas habité, est-ce que ça le sera. Bon, c'est très loin, peut-être qu'un jour on pourra en savoir un peu plus. Ça, c'est une science d'ailleurs qui avance très très vite, à la vitesse de la lumière presque. Et bon, ce qu'on découvre là, évidemment, devrait nous interroger, par rapport d'ailleurs même à nos propres religions. Par rapport, voilà, est-ce que Dieu a créé la Terre pour qu'il y ait de la vie, mais quid des autres exoplanètes, s'il y a de la vie dessus? Vous voyez, c'est des petites questions comme ça qu'il faut commencer à s'interroger aujourd'hui.
Au fond, dans votre œuvre, vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas parler de religion. Il y a même eu un livre, Cieux-Dieu.
Le Cieux-Dieu,
donc qui évoque non pas la religion, mais la guerre des religions. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous obsède encore? Et toujours, d'ailleurs.
Il y a eu quand même dans notre histoire encore récente des guerres de religion, et je pense qu'il y en aura encore, on voit bien d'ailleurs. Mais je suis pas sûr que l'homme soit à son meilleur dans ces cas-là, parce que on voit très bien, on est dans une forme de farce. C'est même navrant si vous regardez même les textes de tous ces gens-là à l'époque, espèce de, si vous les regardez, je suis passionné par ces livres-là d'ailleurs, d'insultes réciproques, c'est pathétique. Donc est-ce qu'on y revient? moi, je crois qu'on va avoir une période difficile.
Bon, on y est déjà, non ?
Oui, mais l'humanité a l'habitude. Hein, on a des hauts, des bas. Et comme disait ma grand-mère, il faut mépriser les hauts et repriser les bas.
Quel est votre rapport avec la mort, Franz-Olivier Gisbert ?
Oula ! Écoutez, moi j'étais élevé à la campagne, donc la mort était quelque chose de naturel. La preuve, d'ailleurs, on tuait les bêtes partout. J'étais très ému quand c'était mal fait, qu'il y avait de la souffrance. Et c'est vrai que j'ai vécu une époque où, quand le paysan du coin allait calancher, il convoquait les voisins, la famille bien sûr, et puis on allait le voir, et il était en général au rez-de-chaussée, parce que, enfin, on ne pouvait plus le laisser dans sa chambre. Et à un moment donné, il tournait la tête vers le mur, et puis quelques temps plus tard, il était mort. Ça, je comprends bien ce type de mort. J'ai connu la mort aussi de Julien Green. Il en avait marre parce qu'il tombait tout le temps, et son médecin lui avait dit que ce serait quand même bien un fauteuil roulant. Et puis, il avait dit non. Et puis, quand même, le front se couvrait de plus en plus de cicatrices, parce que voilà, il avait des vertiges, il tombait, et puis il se réveillait. Enfin, c'était pas plus grave que ça, mais... Bon, il a refusé, et puis un jour, il s'est assis, il s'est couché dans son lit, et puis il m'a convoqué, il m'a dit « je vais mourir ». Bah, « Quoi, non ?» J'ai dit « non, mais non, je vais mourir ». Et puis, il s'est mis dans le coma tout seul, comme les paysans d'autrefois. Au bout, donc, moi, j'aime bien l'idée de mort, ce sont pas des suicides du tout, mais à un moment donné, c'est fini, ça s'arrête. Et vous savez, la mort, est-ce que j'en ai eu peur ? Je suis pas trop sûr, parce que je suis un peu trop joyeux, un peu trop euphorique, pour penser très souvent à la mort. Donc, je crois pas que je l'ai fui non plus en travaillant beaucoup, parce que moi, je suis très contemplatif. Vous me mettez devant une rivière, devant un feu, devant un lac, devant une mer, je peux rester des heures. Même si devant des animaux qui broutent, pareil, je peux rester, j'adore, je suis très heureux, puis je ne vais pas penser à la mort. Je pense que on doit avoir une éducation par rapport à la mort qu'on a peut-être perdue dans notre société. Moi, on l'affrontait, quoi. Je viens d'un temps où l'affronter, c'est le moment, on va partir, et c'est pas grave, faut pas en faire toute une histoire. D'ailleurs, la nature est si bien faite que je suis arrivé aussi à un stade de ma vie où j'ai absolument plus peur de la mort. Ça peut paraître très présomptueux de parler comme ça, mais ça, je sais que c'est le travail de la nature. C'est
peut-être bien. Aussi parce que vous avez eu un cancer, vous en avez parlé, donc on peut en parler.
Oui, bien sûr.
Vous avez eu une épreuve à dépasser, à vivre et à dépasser.
Alors, l'histoire du cancer, mais je crois que c'est souvent le cas, ça vous accroche encore un peu plus à la vie. C'est-à-dire, vous aimez encore un peu plus la vie. J'aimais beaucoup la vie avant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore. Bon, le jour où il faudra s'en séparer, c'est vrai que l'âge se rapproche, et faut essayer de la regarder dans les yeux. Et surtout, ce qui est important, faut essayer de mourir vivant. Moi, c'est ça que je vais m'appliquer à ça, de mourir vivant, et même très très vivant. Même de préférence, peut-être encore en emmerdant le monde, si possible.
Franz-Olivier Gisbert, vous croyez au bien et au mal ?
Ah oui, définitivement. Et d'ailleurs, moi, je crois que une des choses qui m'a dû me pousser aussi vers le journalisme, c'est la révolte. C'est un petit côté justicier. Il m'arrive de temps en temps, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, je me faire bousculer par quelqu'un parce que je me suis interposé dans une bagarre entre un homme et une femme. Enfin, c'était un homme qui tapait une femme à Marseille. Et j'ai toujours ça en moi très fort. Alors, ça vient peut-être du père d'ailleurs. Je me dis toujours, c'est une forme de violence qui est très rentrée. Mais brusquement, je supporte pas. Moi, je supporte pas le cynisme. Je supporte pas la souffrance. C'est-à-dire, voilà, je vais dans un hôpital. J'allais autrefois voir ma mère. Je me souviens, je m'évanouissais à chaque fois parce que je voyais souffrir le martyr pour différentes opérations qu'elle avait eues. Bien avant son cancer qui l'a tué. Et je supporte pas la misère. C'est quelque chose qui me rend fou, là. Vous voyez les images. Non, mais j'ai l'air d'enfiler les perles. Mais par exemple, je suis scandalisé que tout le monde ne soit pas révolté par les images des réfugiés syriens. Je sais pas, on a envie. Alors moi, j'ai encore rien fait, mais je vais le faire. Vous voyez, d'accueillir, d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour tous ces gens qui arrivent de partout. Enfin, voilà. Moi, je suis un peu en révolte permanente. Je crois que c'est ça. Cette espèce de révolte, en dehors de l'amour de la vie, mais c'est ça qui me fait penser que j'ai pas fini d'emmerder le monde.
Franz-Olivier Gisbert, est-ce que la démocratie aujourd'hui est en danger ?
Elle est en danger, évidemment. Bon, alors, je vais pas vous dire les populismes, parce que c'est la réponse qui vient à la bouche, mais enfin, c'est vrai, la réalité, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un populisme qui est basé sur... Je parle pas. Il y a un bon populisme quand même. Hein, je ne vais pas acheter tout avec Claude Dubin, mais il y a un mauvais populisme. C'est celui qui d'ailleurs une sorte de dérive du complotisme. C'est-à-dire on nous cache tout, on nous dit rien, on nous ment, etc. Bon, voilà, très bien. Et puis aussi du mensonge, parce que le populisme est souvent basé sur un mensonge très bête dont on voit très vite les ressorts. Alors. Je pense qu'il menace la démocratie, c'est peut-être d'une certaine manière la transparence. Attention, moi, j'étais parmi les journalistes qui sont battus comme des chiens pour plus de transparence dans ce pays. Il faut voir ce que c'était dans les années 60, dans les années 70. Quand je faisais les premières listes, par exemple, pour le Nouvel Observateur, des Français les plus riches, vous voyez, on travaillait, c'était incroyable. On était comme des résistants sous l'occupation, vous voyez, avec la police derrière qui essayait de comprendre ce qu'on faisait, etc. Enfin, c'était incroyable. C'est fini, ça. C'est complètement fini. Et simplement, faut pas aller trop loin dans la transparence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec une information et des réseaux sociaux surtout trop intrusifs, ça va faire fuir tout le monde. Mais j'ai toujours, mais comment Churchill pourrait être élu aujourd'hui? Ce type qui était quand même bourré la moitié du temps, qui était même souvent bourré quand il faisait ses discours à la Chambre des communes, qui a sauvé l'Europe, qui a sauvé la France, presque a sauvé le monde, en organisant tout, en mêlant Franklin Roosevelt dans cette guerre, etc. Bon, c'est un énorme personnage, Churchill. Bon, il était quand même pas très présentable. Hein, il passait ses matinées au lit à travailler, il bouffait,
il fumait chéri, des gros cigares,
cognac, gros cigares, enfin, il s'occupait pas de son corps. Bon, bref, il est pas électoral, Churchill. Ça vous pose pas un problème, ça? C'est-à-dire que je pense qu'on est quand même dans une période de notre histoire, on devrait peut-être s'intéresser moins aussi à la forme qu'au fond. Et la transparence a fait qu'on s'est beaucoup trop intéressé à la forme, hein. Franchement, avec qui couche machin, moi, ça m'intéresse pas. Je vois pas l'intérêt politique et je pense qu'il y a une espèce de pente là dans laquelle on s'est trop laissé aller. Il faudrait peut-être mettre un petit coup de frein puis remonter un petit peu, remonter le niveau.
Il y a un populisme de droite et un populisme de gauche pour vous?
Ah oui, bien sûr, mais c'est le même, hein. Ils disent les mêmes conneries. Faut sortir de l'Europe, revenons ensemble, refaisons des grandes frontières, protectionnisme, etc. Et puis surtout, d'ailleurs, de toute façon, pas de réfugiés, parce que là-dessus, franchement, vous savez bien, même la gauche de la gauche, elle est pas très claire, hein, sur la question des réfugiés. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, voilà, bah, on est là sur cette terre quand même pour partager les richesses. Moi, je pense que ma philosophie politique, c'est que il faut créer des richesses, et ces richesses, après, il faut les partager. Il faut être heureux du bonheur des autres, et puis, pourquoi mettre des frontières pour empêcher, par exemple, l'Afrique, qui est en train de renaître économiquement, de nous vendre des matières après qu'on l'a pompée, exploitée. C'est un petit juste retour des choses.
Dernière question, François-Olivier Gisbert. Est-ce que vous pensez que le journalisme d'aujourd'hui a l'esprit suffisamment critique, suffisamment affûté pour faire contrepoids aux idées dominantes, aux idées reçues, à l'événement, à l'instantanéité de l'actualité? Est-ce que la presse d'aujourd'hui, tout confondu, est une force de frappe nécessaire pour avancer?
Plus tout à fait. Moi, j'ai été élevé par des grands professionnels, élevé dans le sens formé un peu. Je pense à Jean-François Kahn, par exemple, et bien d'autres, Jean Daniel. Faut toujours aller contre le courant dominant. Et aujourd'hui, il y a un courant dominant. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui résistent. Il y en a, évidemment, on peut citer les noms, il y en a même pas mal. Mais c'est plus comme avant. C'est-à-dire que c'est un peu une phrase de vieux con. C'est plus comme avant. Mais moi, j'aimerais bien que voilà,
tout le monde ne dise pas la même chose.
Et puis tout le monde ne dise pas la même chose non plus. Il n'y a pas de raison. Tout le monde n'est pas peur de leur dire des choses qui choquent. Enfin, c'est incroyable, c'est-à-dire cette espèce de truc, vous sortez un petit peu du bois, vous sortez de... et puis immédiatement, tout le monde vous tombe dessus en disant « mais il fallait pas faire ça, fallait pas dire ça, fallait pas... » Mais non, bien entendu, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut dire les choses, il faut répondre, pas forcément calmement d'ailleurs, moi j'aime bien les polémiques, hein, je cache pas, mais voilà, on avancera aussi dans ce pays en réapprenant à débattre.
Fin de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Franz-Olivier Gisbert. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jean-Pierre Pernel, réalisation Daniel Finot, Coordination, Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.